Bonjour, heureux de vous retrouver. Merci d'écouter le grand face-à-face avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant, retour avec eux sur les temps forts de la semaine et le duel. Et puis, rencontre tout à l'heure avec notre invité ce samedi. C'est un homme qui vit entre différents mondes, sénégalais, africain, français, américain. Il est professeur de philosophie à l'université de Columbia à New York, spécialiste de la philosophie islamique et de l'histoire des sciences. Il est l'un de ceux qui porte un islam des lumières, lui qui vit, qui habite différentes langues et différentes cultures. Il publie Le Fagot de ma mémoire, un itinéraire intellectuel et spirituel qui passe par Dakar, Paris, Chicago, et il nous expliquera pourquoi il préfère parler de pluriversel plutôt que d'universel. Le pluriversel, pour dire l'interpénétration du pluriel et de l'universel. Il nous expliquera aussi sa conception de l'islam. Souleymane Bachir Diagne sera l'invité du grand face-à-face tout à l'heure en duplex depuis New York, mais d'abord le duel.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et pour commencer, une histoire qui se termine peut-être.
Je pense que pour faire la réforme que j'évoquais, il faut supprimer entre autres l'ENA. Mais pas pour se donner le plaisir de supprimer l'ENA. Pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux tel que je l'ai dit.
Parole d'énarque et d'inspecteur des finances, comme il l'avait promis après la crise des Gilets jaunes, le président de la République a annoncé jeudi qu'il allait donc supprimer l'ENA créé en 1945, l'ENA qui sera remplacée par un institut du service public. Gilles, est-ce que c'est une nouvelle si importante que ça ?
Non. C'est un long discours sur, non pas la suppression de l'ENA, mais sur la réforme de l'État et sur le rôle de la fonction publique. Et c'en est sans doute la partie la plus symbolique et peut-être la plus anecdotique. Ce qui est frappant, c'est que...
Anecdotique.
Vous l'avez dit, c'est que l'annonce de la suppression de l'ENA est un peu étirée comme un vieux chewing-gum. Ça fait la deuxième, la troisième fois que cette annonce est faite. En revanche, l'annonce des modalités de ce qui remplace l'ENA, elles sont distillées au compte-gouttes. Les problèmes, ils sont connus, on les a déjà évoqués à de nombreuses reprises. Ici, l'ENA est une école qui a un problème dans la diversité de son accès,
oui,
qui a un problème dans l'intérêt du contenu de la formation et qui a un problème d'injustice dans la sortie en créant une sorte, je reprends une formule qui a été utilisée, d'aristocratie d'État pour ceux qui sortent dans les grands corps et de bourgeoisie de province pour les autres.
Donc, les meilleurs élèves, il faut le rappeler, vont à l'inspection des finances, au Conseil d'État, à la Cour des comptes, par exemple, et ce sont eux qu'on retrouve ensuite à la présidence de la République, à Matignon souvent, dans les ministères et également à la tête de nombreuses entreprises du CAC 40.
Donc les orientations qu'a évoquées le président de la République, je crois pour beaucoup sont défendables. L'idée symbolique du changement de nom, on passe d'une modalité qui est l'administration, l'École nationale d'administration, à une finalité qui est le service public, l'Institut du service public, et un certain nombre d'orientations, le fait d'avoir un tronc commun à l'ENA et à d'autres écoles du service public, d'avoir un corps unique à la sortie pour tous les fonctionnaires, d'avoir de commencer ce qui semble quand même être une évidence par des fonctions opérationnelles pour ceux qui sortent de l'école. Tout ça me semble défendable. En revanche, il demeure, et c'est ça qui est étonnant alors que le temps passe, oui, un certain nombre d'imprécisions qui sont incroyables. On dit qu'il y avait un problème de diversité. On ne sait pas davantage comment il y aura davantage de diversité.
Dans le futur institut du
Dans le futur institut, on a parlé d'un dispositif talent. Bon, il n'y a pas de mobilité dans la fonction publique, on ne sait pas comment il y en aura davantage. On dit la scolarité a un problème de contenu, on ne sait pas en quoi elle sera plus intéressante. Et enfin, et surtout, l'accès au grand corps, on dit c'est plus directement à la sortie de l'ENA, mais il faut savoir comment ça se fait. D'une certaine manière, ce qui a été annoncé, c'est, je disais au début, le plus anecdotique, c'est surtout le plus facile, le plus difficile, c'est le reste.
Natacha Polony.
Oui, je rejoins tout ce que vient de dire Gilles. J'y ajoute deux, trois petites choses. D'abord, pour avoir vu depuis des années, en tant que journaliste spécialiste des questions d'éducation, les modifications de la formation des maîtres, je sais à quel point changer les sigles ne change rigoureusement rien. Et surtout, un point essentiel, je l'ai vu quand on est passé des IUFM, alors avec la période stupide où Nicolas Sarkozy avait supprimé carrément la formation, mais ensuite on avait recréé les ESPE, voilà.
Les instituts universitaires de formation des maîtres.
Les maîtres qui sont devenus les écoles supérieures du professorat et de l'enseignement, et ben, moralité, on a repris les mêmes formateurs parce que c'était ceux qui proposaient les formations clés en main, c'était rapide, c'était facile. Donc si le résultat est le même là, en effet, ça n'aura rien changé parce que
mais
Gilles
Gilles
l'a fort bien souligné, il y a un problème sur la nature de l'enseignement. Encore une fois, les symboles sont très sympathiques. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait concrètement, c'est-à-dire comment on arrive à faire en sorte que les gens qui administrent la France le fassent en ayant une certaines connaissances des réalités de ce que vivent les citoyens dans leurs différences, dans leur diversité, tout le corps social. Mmh. Et donc, la question de savoir comment on recrute des gens qui ont un parcours différent, c'est-à-dire comment on multiplie les portes d'entrée dans cet institut sera fondamentale. Deuxièmement, c'est la question de la diversité du public dès le départ, et ça, c'est un problème, j'allais dire, qui se gère bien en amont, c'est-à-dire la question de l'arrivée jusqu'au concours et comment on fait pour réellement permettre à chaque enfant, où qu'il soit, de quelque milieu qu'il soit, d'avoir une chance un jour d'arriver dans ce genre d'institut. Et ça aussi, c'est quelque chose d'absolument essentiel, mais qui relève d'une autre problématique. Donc le symbole est important, et je pense que ce qui est fait et va dans le bon sens, c'est une bonne idée. Je pense en effet que le fait de sortir de cette caste des grands corps est essentiel, mmh. Mais ça ne marchera que si on donne accès à la haute fonction publique à des gens qui ne sont pas issus de ce cursus, qui est tout de même un cursus tracé directement et de la part de gens qui n'auront vu rien d'autre que ce cursus et la haute administration. Donc je pense que c'est un petit élément minuscule dans un océan de réformes à faire et que les aristocraties se reconstituent toujours extrêmement facilement. Il n'y a donc rien de plus difficile que ce processus qui consiste en permanence à, j'allais dire, à abolir les privilèges et à renouveler à renouveler les différentes élites. Et je pense que ça nécessite une volonté de la part de l'ensemble de l'État. Pour l'instant, j'en vois des bribes. Ça
n'est pas la nuit du 4 août. Un mot encore, Gilles.
Oui, juste un mot. Natacha Polony utilisait l'image de, c'est une petite goutte dans un océan. On a beaucoup parlé de la petite goutte, qui n'est pas une si petite goutte que ça. Mais un mot sur l'océan, c'est-à-dire sur le reste du discours, qui est un discours, je crois, important. Juste un mot. D'abord, la première chose qui me frappe, c'est il y a un angle mort dans cette réflexion sur l'État qui est celui de la paupérisation de l'État, de ses moyens et de ses agents. Et le deuxième, et ça c'est intéressant par rapport à la campagne présidentielle qui vient, c'est on a une illustration de ce que seront les difficultés du président de la République dans cette campagne à venir. Ce discours arrive un peu trop tard pour engager de grands chantiers et un peu trop tôt par rapport à la campagne. Et on voit dans ce discours tout l'écart entre ce qu'étaient les engagements de campagne de 2017 et où on en est aujourd'hui en 2021, entre la réalité et les discours. Et ce qui est rare chez Emmanuel Macron, c'est un discours dans lequel il y a en réalité beaucoup d'autocritique. C'est-à-dire qu'il ne fait pas un bilan très élogieux de la politique que lui-même a conduit sur ce sujet. Et je crois que de fait, c'est peut-être un des grands échecs du quinquennat, mais qu'au-delà de ce domaine, on voit la difficulté pour un président sortant d'engager une nouvelle action, à part dire il faut faire plus vite et aller plus fort.
Natacha Polony, avant de passer au prochain sujet.
Un dernier point d'ailleurs qui, en fait, me semble fondamental, la notion de service public, Gilles soulignait le changement de nom, je pense que le sens du service public, ça s'apprend. Je reprends la métaphore, enfin la corrélation que je faisais avec la formation des enseignants. On y avait ajouté à un moment l'idée d'enseigner en fonctionnaire. C'était une formation. Je veux dire, le sens du service public n'est pas évident, surtout dans une haute fonction publique qui, depuis 40 ans, a appris que le progrès, la modernité, c'était la gouvernance managériale. C'est-à-dire qu'il fallait gérer l'État comme on gère une boîte privée.
Ouais.
Or ça, je pense qu'il va falloir des années pour revenir sur cette idéologie, d'autant plus que, et c'est tout à l'honneur d'Emmanuel Macron d'avoir évolué là-dessus, mais sa campagne de 2017 allait totalement dans ce sens-là. Il était le pur produit de cette idéologie managériale. Aujourd'hui, peut-être a-t-il pris conscience de l'intérêt d'un État qui, justement, ne fonctionne pas comme une entreprise privée. Gilles disait à juste titre que la question est celle des moyens de l'État, mais l'État ne peut avoir des moyens que si on a conscience de la nécessité d'avoir un État, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de rééquilibrer les inégalités, d'aménager le territoire, de penser à long terme, de planifier. C'est tout cela le rôle de l'État. Est-ce qu'on apprendra ça dans cet institut ? Je le souhaite.
Histoire à suivre. Vous voyez que c'était pas si anecdotique puisque vous avez eu un échange passionnant sur le sujet. Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Le protocole appliqué lors de cette visite répondait aux demandes de la partie européenne. La disposition des sièges a été faite conformément aux suggestions de la partie européenne. Point. Nous n'aurions pas fait cette déclaration si la Turquie n'avait pas été à ce point injustement accusée. Mais nous constatons que les choses sont présentées, y compris au plus haut niveau, comme si la Turquie était responsable.
Celui qu'on vient d'entendre est le chef de la diplomatie turque jeudi, pour revenir évidemment sur cette scène qu'on a tous vue. L'image a fait le tour du monde avec ce hashtag Sofagate. Ursula von der Leyen, Charles Michel à Ankara pour rencontrer le président turc Erdogan, et une histoire de protocole qui a provoqué l'indignation quand la présidente de la Commission européenne s'est retrouvée sans siège pendant que le président du Conseil européen, Charles Michel, lui, était invité à s'asseoir aux côtés de Recep Tayyip Erdogan. La Turquie a fustigé des accusations injustes après un affront protocolaire. Natacha, comment est-ce que vous avez compris cette séquence où on se rejette la responsabilité d'un côté et de l'autre, et où on en fait une affaire de protocole quand l'image est si forte qu'elle dit malgré tout l'humiliation?
Je pense que l'image est en effet profondément symbolique, mais symbolique d'énormément de choses. Premièrement, symbolique de la façon dont la Turquie a décidé d'utiliser toutes les failles qui sont les nôtres. Et première faille, tout de même, l'absence totale d'élégance et, j'allais dire, de minimum de politesse de la part de Charles Michel, qui visiblement n'a pas du tout vu où était le problème. Donc, premier point, et ça a été un des points les plus mis en avant, une image de machisme qu'en effet personne ne peut nier. C'est-à-dire que on a depuis retrouvé toutes les images dans lesquelles le président du Conseil européen et le président de la Commission étaient à parts égales autour du président turc.
Oui.
Donc c'est déjà arrivé, nous sommes bien d'accord que il se trouve.
Donc l'excuse du protocole ne tient pas.
Bien sûr que non, que l'excuse du protocole ne tient pas, sauf à démontrer qu'il y aurait eu de la part des diplomates européens la volonté expresse de changer le protocole, ce qui me semble assez bizarre. Donc, premier point, il y a en effet une volonté de marquer le fait que Ursula von der Leyen a le mauvais goût d'être une femme. Mais derrière, il y a quelque chose de plus profond que cela. Parce que ce qui facilite cette scène, ce n'est pas le machisme ou la volonté d'humilier les femmes de Tayyip Recep Erdogan. C'est le problème, en effet, du bicamérisme, du caractère bicéphale de l'Europe. Oui, en termes de protocole, à l'extérieur, le président du Conseil européen est celui qui représente une Europe qui n'est pas encore une Europe fédérale.
Il représente les chefs d'État, les 27 chefs d'État.
Voilà, il représente les 27 chefs d'État. Pour autant, il existe une commission. Et en fait, cela révèle que nous n'avons pas résolu ce problème-là. Qui représente l'Europe et qu'est-ce que l'Europe exactement? Est-ce une fédération, une confédération d'États-nations qui représente les citoyens européens? Voilà la question qu'il faut se poser et que cette petite scène met en lumière de façon assez crue.
Gilles Finkelstein.
Claude Martin, qui était un de nos grands diplomates, a écrit des mémoires dont le titre était « La diplomatie n'est pas un dîner de gala ». On voit que le protocole non plus et que le protocole est même un sport de combat. On peut faire une lecture technique ou juridique de cet incident et en réalité, si c'est ça, il n'y a pas grand-chose à en dire. Il y a une hiérarchie protocolaire. Fédération d'États-nations, disait Natacha, pour reprendre la formule de Jacques Delors, c'est État-nation d'abord et fédération ensuite, donc c'est Charles Michel devant Ursula von der Leyen, et cette hiérarchie a été respectée. De ce point de vue-là, ça serait un incident sans objet, d'autant plus que, il faut quand même le dire, Ankara, dans ce moment-là, n'avait aucun intérêt à créer un incident, puisque c'est plutôt Ankara qui est demandeur de rétablissement de relations normalisées avec l'Union européenne. En revanche, il y a une lecture symbolique et politique, et je rejoins ce que disait Natacha, et là, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire sur Ankara, parce que la vigilance, de ce point de vue-là, est extrêmement légitime. Ce rendez-vous s'inscrit dans un contexte, c'est la sortie, il y a peu, d'Istanbul, de la Convention d'Istanbul, enfin de la Turquie, de la Convention d'Istanbul sur les violences faites aux femmes. Et dans les événements, dans les éléments préparatoires à ce rendez-vous, on a vu aussi, les équipes avaient vu qu'il y avait un sujet sur la place d'Ursula von der Leyen. Bon. Donc ça, c'est du côté d'Ankara, mais ça dit aussi des choses sur les institutions européennes elles-mêmes, avec des rivalités qui sont un peu des rivalités enfantines. Ce sont les équipes de Charles Michel qui, à cause du Covid, ont seules préparé ce rendez-vous. Donc il y a sans doute des rivalités internes. Et la victime de tout ça, eh bien, c'est Charles Michel lui-même, soit à cause de ses équipes, soit parce que lui, surtout, n'a pas eu le sens politique au moment de l'événement pour prendre les décisions qui s'imposaient et qui étaient de soit qu'on ajoute un siège pour Ursula von der Leyen, soit davantage encore même de laisser le sien.
Oui, bien sûr.
Eh bien voilà, il a manqué de sens politique. C'est ça aussi la vie.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Nous avions fait un prêt de l'État de 3 milliards d'euros à Air France. C'était un prêt sur 4 ans. Ce prêt, nous allons le transformer en participation de l'État, en fonds propres de l'État dans l'entreprise. Deuxième soutien, nous allons monter. Cela veut dire que l'État pourra monter jusqu'à un peu moins de 30%. Ça fera de l'État le premier actionnaire d'Air France.
Bruno Le Maire, ministre de l'économie, il était l'invité de France Inter mardi matin. Il annonçait donc cette nouvelle aide à Air France en très grande difficulté. Une entreprise qui a ses avions évidemment qui sont très largement cloués au sol et une aide qui ne sera pas la dernière, précisait Bruno Le Maire cette semaine. Comment est-ce que vous avez entendu, reçu cette nouvelle, Gilles Finkelstein, quand on aide une entreprise, on l'aide de nouveau et qu'on annonce qu'on va devoir encore venir l'aider?
Écoutez, il y a d'abord une forme de soulagement parce que Air France est en difficulté et je crois qu'il est extrêmement légitime que l'État intervienne pour l'aider, mais aussi avec beaucoup d'inquiétude. De l'inquiétude pour l'Union européenne, ça a été peu évoqué. L'Union européenne a fait plusieurs pas en avant dans cette crise en révisant un certain nombre de ses dogmes, y compris sur les aides d'État. Il y a là, en l'espèce, aussi un pas en arrière parce que, une nouvelle fois, il y a nécessairement, pour la Commission européenne, des contreparties à ces aides. Et donc, dans le même temps, on renforce et on affaiblit Air France, en l'occurrence, c'est en obligeant Air France à céder un certain nombre de slots dans les aéroports parisiens.
Oui.
Inquiétude ensuite pour Air France, vous l'avez dit, ce n'est qu'une étape. Avec la crise du Covid, il y a un problème pour l'ensemble du secteur aérien. Ce problème est plus aigu pour l'aérien en Europe. Il est plus aigu dans l'aérien en Europe pour Air France KLM et dans Air France KLM, il est plus aigu encore pour Air France.
Pourquoi ?
Air France est le maillon faible aujourd'hui de ce groupe parce qu'il est entré très affaibli déjà dans cette crise après avoir été, il n'y a pas si longtemps, quand Jean-Cyril Spinetta en était le président, la première compagnie aérienne mondiale en termes de passagers. Et il est aujourd'hui très affaibli malgré cette aide, parce que les problèmes de fonds propres n'ont été qu'à moitié résolus et que les problèmes de liquidité, c'est-à-dire de revenus, sont devant nous. Je vous donne juste ce chiffre qui est édifiant. Il y a eu 1 milliard d'aides supplémentaires, de liquidités supplémentaires pour Air France. Chaque mois, Air France utilise 300 à 400 millions d'euros de cash. Donc le problème est devant, et le problème est devant dans des conditions qui sont pires, parce que maintenant c'est vers les marchés financiers que Air France va devoir se refinancer. Enfin, je termine par une dernière inquiétude qui est pour la transition climatique. L'usage de l'avion, demain, sera, on le sait tous, plus raisonné. C'est vrai sur les courtes distances, c'est vrai sur les voyages d'affaires, sur les longues distances. Il devra être aussi plus économe en CO2. Il y a déjà beaucoup de pistes qui sont devant nous, beaucoup de progrès. On sait que les nouveaux avions consomment beaucoup moins de kérosène. On réfléchit, et même il y a des problèmes de financement, mais ça existe, à un carburant vert. On utilise beaucoup mieux les datas pour économiser la consommation. Mais tout cela demande des investissements. Or, le problème pour Air France, c'est que pour assurer cette transition climatique, eh ben, il risque en plus de manquer de fonds.
Natacha, l'aérien n'est plus un rêve d'enfant.
Alors, cette phrase a beaucoup fait parler et elle me semble très intéressante. Pourquoi ? D'abord parce que quand on se met à décider ce que doit être l'imaginaire des enfants, ça devient extrêmement angoissant. Et pour autant, pour compenser cela et dédouaner un petit peu la maire de Poitiers, ça ne dérange personne quand c'est la publicité qui dicte leur imaginaire à nos enfants. Ça me semble éminemment problématique. Mais le problème qui se pose à Air France, alors Gilles a très bien résumé la question notamment de la philosophie européenne, qui est de l'évolution de l'Europe, qui a encore beaucoup de pas à faire pour comprendre que la défense des consommateurs ne doit pas empêcher de consolider les entreprises européennes, et dans un monde où on a des monopoles qui se créent partout ailleurs, il serait absolument stupide d'empêcher de consolider les entreprises européennes et de créer des géants européens. Or, les compensations réclamées à Air France ne vont faire qu'affaiblir une entreprise que l'on veut consolider et aider, c'est absurde. Mais il me semble que le problème va venir en effet de la capacité d'Air France, comme de toutes les autres entreprises, mais en particulier d'Air France, d'opérer ce tournant qui va se jouer dans les années qui viennent sur l'aérien, dans la mesure où, Gilles l'a tout à fait bien dit, la question climatique va s'ajouter aux freins mis à la circulation des personnes. Pour le dire simplement, le coronavirus a bousculé totalement cet univers qui était le nôtre, d'un univers libéralisé, de libre circulation des hommes, des marchandises, des capitaux. La libre circulation des marchandises a tout de suite repris, celle des capitaux n'a jamais cessé. Reste la libre circulation des hommes, dont on voit qu'elle va rester pour encore longtemps très difficile. Les frontières se sont refermées et ne se rouvriront pas tout de suite. Quant au tourisme, il va certainement connaître des bouleversements. Et dans un sens, ce n'est pas tellement plus mal si on arrive à réfléchir au sens qu'il y avait à ce tourisme de masse low cost tel qu'il avait été développé. Le problème, c'est si on se retrouve avec la perpétuation de compagnies aériennes low cost telles que Ryanair, qui contournent les règles, notamment celles de la fiscalité, et qui donc incarnent ce qu'il y a de plus, j'allais dire, de plus ringard et de plus ancien monde dans l'aérien, mais que en revanche on ne permet pas à une entreprise comme Air France de penser un avenir qui serait un avenir davantage tourné vers la préservation du climat et avec une façon de repenser le transport aérien plus écologique, plus modéré. Je pense que la France, dont le secteur aérien est un des secteurs industriels qui lui reste, a là un tournant à opérer qui va être extrêmement difficile. Visiblement, l'Union européenne n'a pas l'air de vouloir aider à cela, c'est dommage.
Juste un tout dernier mot pour conclure sur cette question climatique, l'aérien et les rêves d'enfants, et sur cette polémique autour de la maire de Poitiers. La décision qui a été prise me semble peu contestable, c'est-à-dire de réduire une subvention pour un aérodrome pour l'affecter à d'autres dépenses de solidarité, d'autant plus que, si j'en crois les chiffres, c'est 4 000 euros pour un budget total de 340 000 euros. D'ailleurs, elle a été peu contestée. La justification par la maire a été maladroite. Elle a d'ailleurs reconnu elle-même sa maladresse, très maladroite sur la forme et discutable sur le fond. Mais ce par quoi je voudrais conclure, c'est sur les réactions qui m'ont paru absolument consternantes. Je trouve que ça dénote un curieux sens de l'État lorsque le ministre des Transports tire comme leçon de cette polémique qu'il faut attribuer la Légion d'honneur au président de ces aéroclubs, et que ça dénote d'un curieux sens politique de ceux qui, une nouvelle fois, et on voit ça semaine après semaine, montent en violence dans les qualificatifs. Là, c'était la folie, c'était les ayatollahs. Quand on voit qu'il y a un problème de front républicain, penser que le meilleur moyen pour avoir de meilleurs reports de la gauche et des écologistes dans une hypothèse de second tour, c'est d'insulter du soir au matin et du matin au soir, ça me paraît quand même être un sens politique pour le moins étrange.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec le philosophe Souleymane Bachir Diagne.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Plusieurs de mes aïeux ont contribué à cette tradition dans laquelle il n'était pas rare de voir les femmes prendre une part active. Ma grand-mère maternelle, fille de marabout, enseignait elle-même le Coran. C'est à cette tradition que je dois d'avoir été éduqué dans l'idée d'un islam à la fois rationnel et soufi, dans l'idée que le mysticisme n'est pas l'abandon de la raison, mais fleurit au contraire à la fine pointe de celle-ci. Je ferme les guillemets. Ces mots sont signés de notre invité. Il est professeur de philosophie à l'université de Columbia à New York, spécialiste de la philosophie islamique et de l'histoire des sciences. Il est l'un de ceux qui porte un islam des Lumières et lui qui habite différentes langues et différentes cultures, publie Le Fagot de ma mémoire aux éditions Philippe Ray, et il est en duplex avec nous depuis New York. Bonjour Souleymane Bachir Diagne.
Oui, bonjour Ali Badou.
Merci d'être au micro de France Inter. Il est tôt, il est encore très tôt chez vous à New York. C'est un livre passionnant que vous publiez. C'est un livre qui permet de décentrer les regards sur des questions qui suscitent les passions dans le débat public, les questions du postcolonialisme, les questions de l'universel. Mais il y a aussi l'itinéraire, votre itinéraire intellectuel et spirituel qui passe par Dakar, par Paris, par New York. Vous, l'enfant de Saint-Louis du Sénégal, on avait envie de discuter avec vous, de vous entendre sur votre vision de l'islam, pour commencer, sur votre pratique aussi du soufisme. Petit essai de définition, Souleymane Bachir Diagne, puisque il est rare qu'on puisse parler de l'islam sous cette forme-là et sous cet angle-là en France. Le soufisme, qu'est-ce que c'est ?
Alors, un grand merci d'abord de me recevoir et de recevoir mon livre avec l'intérêt que vous venez d'exprimer. C'est une bonne question, et c'est une des questions d'ailleurs qui m'ont conduit à écrire ce livre, qui m'ont convaincu que parler de mon parcours ou de ma petite trajectoire personnelle pouvait avoir une signification au-delà de moi-même.
Bien sûr.
Le soufisme, oui, j'ai été élevé là-dedans, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix. Et la raison de cela, c'est que l'islam ouest-africain en général, l'islam africain même, et toute la façade atlantique, disons, est un islam profondément soufi. Alors, qu'est-ce que ça signifie, le soufisme ? C'est un des grands indéfinissables. Vous savez, je vous donne une définition célèbre d'un maître qui disait « Le soufisme, ça, c'est d'abord simplement écarter une pierre du chemin pour que d'autres ne tombent pas. Oui. » Ça, c'est le début. Et la fin, il n'y a pas de fin. Mais disons, de manière à peu près précise, que c'est la dimension intérieure de l'islam. Ça n'est pas autre chose que l'islam, mais c'est un islam, si vous voulez, qui, au-delà du rituel qui le définit, au-delà des règles qui sont les siennes, au-delà de ce qu'on appelle les piliers qui en constituent la définition, est une certaine inquiétude de Dieu. Voilà, je définirais ça de cette manière-là. L'idée que la religion n'est pas une chose dans laquelle on s'installe de manière tranquille. Oui. Dieu ne vous laisse pas tranquille. Il vous rend inquiet de lui. Et le soufisme, dirais-je, est une manifestation de cette inquiétude permanente de Dieu qui est l'inquiétude normale des croyants vis-à-vis de celui en qui ils croient.
Alors juste avant de donner la parole à Natacha et Gilles qui ont hâte d'échanger avec vous, lorsqu'on parle d'islam des Lumières, l'expression, qu'est-ce qu'elle désigne pour vous, Souleymane Bachir Diagne ?
Alors, il y a une chose qu'elle ne doit pas désigner, parce que l'islam des Lumières, ce serait une manière d'inscrire l'islam dans une trajectoire dont on estime qu'elle est la trajectoire européenne. Une chronologie européenne qui voudrait que, après la modernité du XVIIe siècle, le XVIIIe siècle soit le siècle des Lumières, et on demande à l'islam, au fond, de se conformer à cette chronologie-là et d'entrer dans cette terminologie. L'islam des Lumières, je suis heureux que vous ayez lu... merci d'avoir fait cela. Le passage que vous avez lu de mon livre, c'est indiqué qu'il y a de manière interne à l'islam une aspiration vers les Lumières, et un islam des Lumières, selon moi, c'est simplement l'islam qui n'est plus empêché, si vous voulez, de montrer sa capacité de mouvement vers ses propres Lumières. Autrement dit, pour rendre les choses plus, pour dire les choses plus simplement, oui. Il y a dans la tradition intellectuelle et spirituelle qu'est l'islam une idée des Lumières, une idée du pluralisme, une idée de la tolérance, une idée du respect que l'on doit à d'autres croyances, et il s'agit simplement de mettre à jour cela. Une idée également d'une parole vivante qui accompagne le mouvement de la vie, qui n'est pas crispation contre le temps, qui n'est pas fondamentalisme, mais qui, au contraire, embrasse le mouvement de la vie, qui est aussi le mouvement de notre modernité. Et cela de manière interne à l'islam.
Question de Gilles Finkelstein.
Oui, c'est précisément là-dessus, sur le rapport de l'islam à la modernité, sur lequel je voudrais moi aussi revenir, en disant quand même que la lecture de le fagot de ma mémoire est un délicieux voyage. Un délicieux voyage dans le temps, vous dites vous-même, c'est une contemplation du passé, et puis dans l'espace, avec ces villes dans lesquelles vous allez au fur et à mesure de ce qui n'est pas une petite trajectoire personnelle, comme vous l'avez dit, mais quand même un formidable parcours. La question je voudrais vous poser, justement, sur le rapport de l'islam et de la modernité. Vous faites la distinction, c'est page 110, entre le concept de reconstruction de la pensée de l'islam et celui d'adaptation ou d'imitation. C'est quoi la différence entre les deux ?
Souleymane Bachir Diagne.
Alors, oui, ce que j'essaye d'exprimer par là, c'est l'idée que la modernité ou la modernisation de l'islam, ce n'est pas le mouvement qu'aurait l'islam d'imiter un modèle extérieur, disons le modèle d'une modernité européenne. Ça pourrait être une conséquence. Ce que j'essaye de dire par là, c'est qu'il y a eu un moment, l'islam est une religion du mouvement. Du mouvement continu, si vous voulez, je dis que c'est une cosmologie émergente, un terme un peu technique, pour dire précisément que normalement, ce n'est pas une religion figée, c'est une religion dynamique, au sens que Bergson donne à l'idée de religion dynamique. Mais il s'est effectué dans son parcours une pétrification qu'on peut dater du XIIIe siècle, regarder les choses de manière historique. On peut dire qu'à partir du XIIIe siècle, une religion qui jusque-là s'était manifestée précisément par son caractère dynamique, son caractère ouvert, pluraliste, créatif, s'est en quelque sorte pétrifiée. Cette pétrification s'est révélée à elle-même, si vous voulez, au moment de la colonisation. La colonisation a jeté une lumière crue sur le fait que les musulmans avaient perdu contact avec le dynamisme de leur propre religion. Et donc, une modernisation, c'est la remise en mouvement de cette religion. C'est-à-dire, il faut qu'elle arrête de s'imiter elle-même déjà. C'est-à-dire de se crisper sur un modèle dont on estime que c'est le modèle de la perfection indépensable, parce que si vous avez atteint la perfection, évidemment, le temps ne peut plus que faire intervenir de la détérioration.
Oui.
Et par conséquent, vous vous crispez contre le temps. Ça, c'est le fondamentalisme. Vous essayez autant que possible de d'être continuellement dans l'imitation d'une tradition que vous avez vous-même inventée. Vous voyez donc que l'imitation en question, c'est d'abord une auto-imitation. Or, la différence que j'essaye d'établir avec l'idée d'adaptation, c'est précisément de remettre en marche l'horloge, l'horloge qui s'est arrêtée, de se repenser, de se reconstruire. Et c'est là que j'utilise aussi cet autre mot que vous avez heureusement cité dans la citation que vous avez faite de mon ouvrage. Vous reconstruisez votre propre pensée de manière à retrouver un principe interne de mouvement.
Oui.
Et la modernité sera à ce prix. Voilà la différence que j'essaie d'établir entre l'imitation d'un modèle extérieur et l'adaptation qui est reconnexion de son propre mouvement interne.
Et vous citez effectivement Bergson, l'évolution créatrice et la rencontre entre l'élan vital bergsonien et ce qu'on peut trouver dans le Coran et dans le texte fondateur de l'islam. Natacha Polony.
Bonjour, je commencerai déjà par joindre mes éloges à ceux de Gilles et d'Ali pour dire que votre livre est extraordinaire en le sens qu'il nous promène dans l'image de la société coloniale et les ségrégations qui s'y trouvaient. Il nous raconte l'importance de l'école, ce que peuvent être les rêves d'accès au savoir. Enfin, c'est un livre passionnant à tous les points de vue. Pour revenir sur cette question de l'islam. J'ai le souvenir, j'avais eu la chance de suivre à l'université les cours d'Abdelwahab Medeb, qui justement parlait de cette pétrification que vous avez soulignée dans l'histoire de l'islam, et qui identifiait ce qu'il appelait la maladie de l'islam, c'est-à-dire cette idée que le fondamentalisme guettait en permanence l'islam et qu'il le voyait revenir. Ma question, en fait, c'est la question de savoir quels sont les mécanismes qui se mettent en route et qui font peser ce risque de recherche de pureté, donc de pétrification, de littéralisme, sachant qu'il me semble qu'il y a aussi des questions géopolitique qui se mêle aux questions spirituelles. Par exemple, plusieurs enquêtes s'inquiètent de la montée, de la pénétration du wahhabisme, notamment dans l'islam sénégalais. C'est vrai aussi en Europe. Comment peut-on lutter contre cette influence et remettre ce mouvement dont vous parlez ?
Souleymane Bachir Diagne.
Alors, je vous remercie d'abord infiniment de ce que vous avez dit sur le livre lui-même, parce que vous savez, quand on passe des ouvrages que j'ai écrits jusqu'à présent, où je m'occupais de certains concepts, l'universel, le postcolonial, etc., et qu'on se met à dire « je », cela ne va pas de soi. On se dit toujours « est-ce que ça va intéresser quelqu'un d'autre que ma fille ?» Et même pour ma fille, je suis pas sûr. Et puis, voilà. Et effectivement, j'ai eu le sentiment à un moment donné, ce qui a fait le déclencheur interne de la possibilité d'écrire, j'ai eu le sentiment que je parlais pour une génération que j'appellerais la génération des enfants de l'indépendance, ceux qui sont comme moi nés autour de les années 60. Et que vous l'ayez dit là me fait infiniment plaisir. Alors, et que vous ayez parlé de Abdelwahab Medeb également. Vous savez, Abdelwahab Medeb, nous avons partagé, lui et moi, un même panel au Maroc, dans le cadre, je crois que c'était un festival autour du livre, et nous étions sur un panel qui s'appelait justement « Islam des Lumières ». Et nous avons été ensuite dîner chez lui, voilà. Bref, c'est un homme très cher, effectivement, et sa pensée était très importante pour moi également. Alors, vous avez mille fois raison de dire que le danger guette, parce que j'ai parlé tout à l'heure d'une pétrification. Cette pétrification n'est pas simplement accidentelle. Vous avez le fondamentalisme, et c'est la peur du temps, c'est la peur de la vie. C'est une religion, me semble-t-il, c'est une conception de la religion, d'une religion comme morte, comme figée, précisément parce qu'on voudrait la figer sur un temps qui ne bougerait pas, qui ne changerait pas. Dire qu'on reconstitue une tradition et que tout ce qui s'écarte de cette tradition devient absolument hérétique, à excommunier, etc., c'est une maladie, pour reprendre le mot qui a été celui d'Abdel Wahhab. Et cette tentation est là, parce que embrasser le temps... Oui.
Une maladie qu'on veut inoculer, en l'occurrence. Il y a la volonté de l'Arabie Saoudite de diffuser, d'imposer le wahhabisme en lieu et place d'autres traditions de l'islam, celle qui est la vôtre, par exemple, celle qui unit à travers ce qu'on appelle la tijaniya des manières de pratiquer l'islam au Sénégal, au Mali et puis au Maroc.
Mais parce que le wahhabisme estime que son plus grand ennemi, c'est le chiisme, et ensuite le soufisme, à peu près pour les mêmes raisons. Au fond, c'est la même chose que le wahhabisme reproche aussi bien au soufisme qu'au chiisme. Il supporte pas le pluralisme. Si vous avez le sentiment que vous êtes, évidemment, que vous avez la vérité et que vous êtes la tradition, eh bien, vous considérez que tout ce qui ne vous ressemble pas est à excommunier. Et il y a, vous l'avez dit, là maintenant, un exercice géopolitique très précis de prosélytisme appuyé sur les richesses, sur les pétrodollars, qui consiste à avoir une activité dans plusieurs régions du monde, dont la région ouest-africaine aujourd'hui. Et malheureusement, si vous voulez, le wahhabisme, si c'est une interprétation parmi d'autres, il n'y a pas de problème. Le pluralisme s'accommode aussi des interprétations qui ne sont pas intrinsèquement pluralistes. Mais quand cela se traduit par le fait de faire le lit de ceux qui ont une conception violente de l'excommunication précisément, là, ça devient un problème. C'est la raison pour laquelle il y a non seulement cette poussée d'une interprétation exclusiviste de l'islam, mais que cette poussée peut faire le lit de la violence. La violence n'est pas intrinsèquement liée au wahhabisme, mais elle est permise. C'est le cheval de Troie d'une violence terroriste qui aujourd'hui menace plusieurs régions, dont notre région ouest-africaine.
Gilles, si on quitte la question de l'islam qui n'occupe en réalité qu'une partie de votre essai, de vos mémoires, j'ai été frappé moi de la manière dont vous décriviez de manière très simple, presque douce, des réalités qui étaient très dures, à la fois le colonialisme du quotidien lorsque vous étiez lycéen à la fin des années 60 à Dakar, et le racisme du quotidien lorsque vous étiez universitaire arrivant à Harvard à la fin des années 70. C'était quoi concrètement ce colonialisme du quotidien qu'on voyait dans la géographie de la ville de Dakar ou dans l'accès à ce lycée Vanvaux auquel vous avez accédé, ou le racisme du quotidien quand on arrive à Harvard à la fin des années 70?
Souleymane Bachir Diagne.
Oui, alors pour ce qui est de la, vous savez, le racisme, le colonialisme, d'une certaine façon, est un apartheid toujours. L'apartheid, nous l'associons à l'Afrique du Sud. Mais prenez la structure de la ville de Dakar. La ville de Dakar se développe autour du quartier proche du port que l'on appelle le Plateau. Les Français s'installent dans ce qu'ils appellent le Plateau et ils vont vider les populations locales au nom de la protection sanitaire. D'ailleurs, ils vont profiter en particulier d'une peste qui s'est déclarée au début du XXe siècle pour dire que c'était malsain, il fallait faire sortir les populations. Et donc vous retrouvez avec un Dakar qui est structuré autour d'un plateau qui est le quartier européen et d'une médina qui est la ville indigène. Et avec d'ailleurs une espèce de cordon sanitaire qui s'installe entre les deux. Et c'est le cinéaste sénégalais Ousmane Sembène qui a filmé cela très bien. Il a un film qui s'appelle Borom Saret, où il montre la grande métaphore, c'est que quand on conduit comme ça des calèches, les calèches n'ont pas le droit d'entrer dans le plateau. Il y a une frontière qui interdit à ces calèches d'entrer dans le plateau. Seules les voitures rutilantes, qui à l'époque n'appartenaient qu'aux Européens, pouvaient évidemment circuler dans le plateau. Et raconter l'histoire de la ville de Dakar, comment des quartiers nouveaux comme la SICA viennent compliquer cette architecture, cette structure, cet urbanisme colonial, et comme ce que signifie sociologiquement ces quartiers de la SICA, où moi-même j'ai grandi, c'était une manière effectivement, encore une fois, au-delà de mon petit parcours, de raconter une société qui est devenue indépendante, qui est en voie de décolonisation, et comment Dakar se complexifie, etc. Alors Harvard, c'était effectivement, comme je le raconte,
parce que vous parlez de Boston, c'est l'une des villes les plus ségrégées ségrégé des États-Unis quand vous y arrivez, quand vous allez à Harvard, effectivement, Souleymane Bachir Diagne.
Ah oui, oui, oui. Quand j'arrive, on me raconte d'abord l'histoire d'un Sénégalais qui s'est fait bastonner. Le Sénégalais en question s'est retrouvé au mauvais quartier, là où il ne fallait pas, chez des Irlandais catholiques qui déjà ne supportent pas les non-Irlandais catholiques, alors a fortiori les Noirs venus d'Afrique. Il s'était égaré là et il s'était retrouvé, il avait été bastonné. Et je suis arrivé aussi à un moment où il s'est produit un crime absolument terrible. Des gamins blancs avaient tiré sur un autre gamin de leur âge, simplement parce que ce gamin était dans une équipe de football qui venait jouer contre leur lycée et qui était en train de mener à la mi-temps. Enfin, c'est quelque chose d'absolument fou.
Oui.
Alors, je ne découvrais pas le racisme. Je savais que le racisme existait, bien entendu, mais je découvrais la violence raciste de ces années-là, de la fin des années 70, dans une ville comme Boston. Et c'était la première fois que je me disais, il faut que je fasse attention où je mets les pieds, il y a des quartiers où il ne faut pas que j'aille. Et c'était une expérience absolument extraordinaire.
Et vous racontez d'ailleurs, dans votre livre, la haine, c'est quasiment une forme de découverte de ce sentiment de haine qui habitait le cœur de ces trois gamins blancs qui donc ont tiré à la carabine sur ce garçon noir. Natacha ?
Vous évoquez aussi dans votre livre la question du post-colonial et de l'articulation avec l'universel. Vous reprenez le concept de Merleau-Ponty d'universel latéral. Vous expliquez comment il était décrié par Lévinas. C'est absolument passionnant, mais j'aurais voulu que vous définissiez justement le post-colonial, parce que j'ai une question. Ce post-colonial, c'est la mise en avant de la pluralité du monde, l'idée que d'autres pôles doivent se développer que l'Occident et qu'il faut rééquilibrer les choses. Mais ma question, c'est est-ce que ce post-colonial n'a pas tendance aujourd'hui à devenir chez certains l'idée d'une remise en cause de l'ensemble des concepts nés en Occident et de toute la tradition humaniste, si questionnable soit-elle, née en Europe. Et la question qui me venait, c'était celle-là. Est-ce que penser le post-colonial, par exemple, au Sénégal, c'est-à-dire sortir des traces de cette société ségrégée, se fait sur les mêmes bases que de penser en France le post-colonial pour des enfants d'origine sénégalaise mais qui sont français et qui ont vocation à être intégrés dans la société française.
Souleymane Bachir Diagne.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, le post-colonial, au fond, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez rappelé, c'est le pluriel du monde, l'idée que le monde est pluriel. Et ça n'est pas, j'insiste là-dessus, ça n'est pas une remise en question de l'universel au sens où on dirait il n'y a plus d'universel, il n'y a plus du commun et il n'y a plus de l'humanisme. Au contraire, je suis, de ce point de vue-là, à l'intérieur de ce grand mouvement qu'on peut appeler postcolonial où il y a à boire et à manger,
oui.
Je suis de ceux qui sont qui plaident pour l'universel et qui plaident pour l'humanisme sur la base d'un pluriel qui est notre point de départ. Au fond, considérer que le monde est pluriel, qu'il est une pluralité de langues et de cultures et qu'elles sont toutes équivalentes. Ça veut dire que le monde n'a pas à s'ordonner sur une région particulière qui aurait décrété qu'elle est porteuse tout naturellement de l'universel. Et qu'elle est le centre, tout le monde doit être à sa périphérie et s'ordonner autour d'elle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas aller ensemble à l'universel. Je prends une expression du sociologue Immanuel Wallerstein, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et qui disait qu'il s'agissait d'aller vers un universel vraiment universel. Un universel vraiment universel,
oui.
C'est un universel auquel tout le monde participe, auquel tout le monde apporte sa pierre. Vous savez, j'ai lu récemment dans une interview où on lui a posé une question philosophique au détour de la discussion politique qui était la sienne, une pensée très forte de Jean-Luc Mélenchon qui disait que le monde va vers sa créolisation et que l'humanité doit faire peuple. Il parle du peuple humain, qui est une expression magnifique et curieuse. Et donc, il y a effectivement là dans le post-colonial, bien compris, le pluriel du monde, bien compris, dans sa diversité, il y a aussi l'idée qu'il nous faille aller ensemble vers l'universel, simplement parce que nous avons besoin de faire peuple, nous avons besoin d'être une humanité. Le virus de Covid-19 nous a appris que nous étions une seule humanité fragile et vulnérable dont il avait très vite fait le tour. Eh bien, il faut que nous lui répondions que nous sommes en effet une seule humanité, que nous ayons une finalité commune, que nous considérions qu'il y a un bien commun qui nous réunit, ce bien commun étant d'ailleurs la vaccination qu'il faut distribuer également et ne pas suivre toujours les mêmes lignes de fracture entre un nord qui vaccinerait tout le monde et un sud qui serait victime continue du virus. Voilà des manières très concrètes de penser un universel concret et un humanisme. Effectivement, il nous faut une politique d'humanité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me suis arrangé pour terminer mon livre sur le mot d'humanité, qui est le mot bantou de Ubuntu, qui a été mis en honneur par Nelson Mandela et Desmond Tutu.
C'est le sens d'Ubuntu, effectivement, que vous citez. C'est le combat à mener aujourd'hui sur le plan mondial. Affirmer ensemble notre humanité commune comme une force créatrice qui s'oppose à la mort. C'est, je vous cite, Souleymane Bachir Diagne, et vous proposez le concept de pluriversalité pour essayer de penser cette interpénétration du pluriel et de l'universel. Question de Gilles Finkelstein. Il nous reste peu de temps, très peu de temps, malheureusement.
Justement, sur l'humanité, une question qui m'intéresse particulièrement. Dans le chapitre que vous écrivez sur Paris et sur les études que vous aviez faites à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, où vous disiez que vous parliez beaucoup du socialisme, vous dites, parlant d'aujourd'hui, le socialisme ne peut se reconstruire que comme idéalisme et comme humanisme. Est-ce que vous pouvez développer? Si vous avez la solution sur l'avenir du socialisme, je suis intéressé.
Souleymane Bachir Diagne.
Ah ben, voilà, je vais tout vous dire sur l'avenir du socialisme. Bon, je raconte en effet que je suis passé d'un socialisme althusserien quand Althusser était mon maître. Je fais partie de la dernière génération de philosophes à avoir eu comme prof, professeur caïman, comme on disait à l'école normale, à la fois Althusser, Derrida et Potra. Et ensuite, si vous voulez, je posais cela au socialisme de Senghor, le socialisme africain qui me semblait un petit peu bon. Alors, c'était un socialisme justement de l'humanisme, oui. Et c'était un socialisme spiritualiste. Et d'une certaine façon, je raconte comment j'ai fait un parcours qui m'a mené d'Althusser à Senghor, m'a ramené à Senghor d'une certaine façon. Et je crois, en effet, que le socialisme en voie de reconstruction maintenant, et je dis cela en pensant au livre d'Axel Honneth sur les manières de reconstruire le socialisme, je crois que le socialisme doit renouer avec sa propre profondeur spirituelle, être une aspiration spirituelle, ne pas être cette espèce de matérialisme plat, mais d'avoir le sentiment qu'il faut que l'idée de désaliénation est centrale, et que la désaliénation, ce sera une manière pour l'esprit de soulever la matière, et il faut qu'il retrouve également sa dimension éthique. On a considéré que le marxisme est une science, pratiquement, où il fallait calculer de la plus-value. Je ne pense pas. Je pense que s'il n'y a pas cette dimension éthique de vouloir un autre monde et d'avoir l'impression qu'il faut mettre des forces spirituelles au service de ce vouloir, le socialisme ne signifiera plus grand-chose sinon.
Natacha, un mot pour conclure.
J'adhère totalement à cette vision du socialisme. Nous n'avons plus le temps, mais la réflexion sur la décolonisation de la science m'aurait passionnée, parce qu'il me semble que la vision de la science en Occident bascule avec Galilée, où l'univers est pensé comme des règles mathématiques. Est-ce que c'est réellement l'Occident qui colonise la science, ou est-ce que c'est l'idée qu'il n'y aurait que la science, cette idée qui naît à la Renaissance, cette idée que l'univers n'est que mathématique?
Malheureusement, l'émission touche à sa fin. Et en 20 secondes, c'est très compliqué, Souleymane Bachir Diagne, de répondre à une question aussi forte. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir de nouveau dans le grand face-à-face pour poursuivre cette conversation. D'un mot, j'ai vraiment, pour le coup, moi, une question. Pourquoi Beyoncé, Souleymane Bachir Diagne ? Pourquoi est-ce que vous aimez Beyoncé? Qu'est-ce qui vous plaît chez Queen Bee?
D'abord, c'est la manière dont mes enfants me cultivent à la musique actuelle. Oui. Et j'aime effectivement l'Ave Maria de Beyoncé. L'Ave Maria est très émouvant.
Eh ben, écoutez, merci infiniment. Et c'est ce sur quoi nous allons conclure cette émission. Souleyman Bachir Diagne, merci d'avoir été en direct avec nous depuis New York. Le Fagot de ma mémoire est publié chez Philippe Rey. Natacha et Gilles, rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt, Stéphane Combe, Tristan Gratalon, toute l'équipe du Grand Face à Face. À suivre le journal.